Bonjour et bienvenue sur RFI, 16h, temps universel, 18h ici à Paris.
Le journal, en français facile.
Mathis Limano.
L'actualité de ce jeudi 9 mai, c'est le traditionnel défilé militaire à Moscou à l'occasion de la victoire sur l'Allemagne nazie. Une vingtaine de dirigeants du monde présents. Pendant que les Européens, eux, sont en Ukraine, ils promettent de débloquer 1 milliard d'euros pour soutenir le pays. Un sommet est prévu demain à Kiev. La première messe de Léon XIV, le nouveau pape, a déploré un recul de la foi. La messe d'inauguration de son pontificat aura lieu dans une dizaine de jours. Et puis, 2 millions de personnes face au risque de mourir de faim. C'est la situation dans la bande de Gaza. Cela fait plus de 2 mois qu'aucune aide humanitaire ne rentre dans le territoire palestinien. C'est une démonstration de force. En ce 9 mai, la Russie a célébré en grande pompe la victoire en 1945 sur l'Allemagne nazie avec la traditionnelle parade militaire à Moscou sur la place Rouge. Une vingtaine de dirigeants du monde y ont assisté, dont le président chinois Xi Jinping. Et pendant que Vladimir Poutine célébrait, je cite, le courage des soldats russes engagés en Ukraine, les Européens, eux, sont à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères ainsi que la chef de la diplomatie européenne. À cette occasion, Kaya Kallas a annoncé le déblocage d'un milliard d'euros pour soutenir l'effort de guerre des Ukrainiens. Une aide financée sur les intérêts des avoirs russes gelés, c'est-à-dire grâce à l'argent que génèrent les investissements russes dans l'Union européenne. Kaya Kallas en a aussi profité pour critiquer les dirigeants présents à Moscou pour assister au défilé militaire.
Notre présence ici marque l'unité de notre soutien indéfectible à l'Ukraine. Aujourd'hui, celui qui est pour la paix doit être ici, en Ukraine, et non pas à Moscou. La Russie a déclenché contre l'Ukraine la guerre la plus dévastatrice depuis 1945. Il y a 80 ans, Hitler bombardait l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est Poutine qui fait la même chose. Pour venir en aide à l'Ukraine, nous venons de débloquer 1 milliard d'euros qui ira à son industrie de défense. Ce financement ira soutenir directement les entreprises ukrainiennes de défense et permettra de garantir une aide militaire additionnelle dans les prochains mois, ce qui sera crucial.
La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas. Demain, ce sont les dirigeants de la coalition des volontaires, ces pays alliés de l'Ukraine, qui sont attendus sur place pour un sommet, annonce de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien veut continuer à mobiliser ses alliés afin d'apporter des garanties de sécurité à son pays. Et à l'instant, le ministre des Affaires étrangères français dit être en route pour Kiev pour participer à ce sommet. La France, justement, qui compte parmi les alliés de l'Ukraine, Emmanuel Macron, accuse Vladimir Poutine d'être du côté de la guerre, pas du côté de la paix. Le président français est à Nancy, dans l'est de la France. Il a signé avec le Premier ministre de la Pologne un traité d'amitié qui prévoit notamment une obligation de défense mutuelle en cas d'agression, un nouveau rapprochement entre Européens face à la menace de la Russie. Lui promet de donner un nouvel élan, une nouvelle force à l'Europe. Le chancelier allemand Friedrich Merz est à Bruxelles. Il a échangé avec des responsables de l'Union européenne. Bonjour Pierre Benazé.
Bonjour.
La présence de Friedrich Merz dès les premiers jours de son mandat est vue comme un signe d'engagement pour que l'Allemagne reprenne l'initiative en Europe.
Oui, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz est venu répéter qu'il voulait s'engager pour l'Europe. Il est venu aussi pour rassurer les Européens, puisque il a subi quelques critiques de ses partenaires, par exemple la France, qui n'aime pas qu'il veuille signer un accord de libre-échange avec le Mercosur en Amérique du Sud, par exemple les pays voisins du sud de l'Europe qui voudraient qu'il s'engage pour un emprunt commun européen pour la défense militaire, et puis ceux qui critiquent aussi les contrôles qu'il a remis en place à la frontière et puis les refoulements de migrants clandestins. Il promet que ce ne sont que des mesures temporaires et qu'il ne veut pas remettre en cause la réforme du pacte d'asile de l'Union européenne. Je vous propose d'écouter Friedrich Merz.
Wir haben bis auf die Schweiz keine europäischen Außengrenzen. Und insofern ist die Beantragung eines Asylverfahrens an einer deutschen europäischen Binnengrenze in der Regel nicht möglich. Wir wissen, dass das immer nur zeitlich begrenzt möglich ist. Und ich habe deswegen vor allem dem polnischen Ministerpräsidenten zugesagt, dass wir natürlich die Sicherung der europäischen Außengrenzen nicht denen allein überlassen, die europäische Außengrenzen haben.
Friedrich Merz veut prouver qu'il est engagé pour l'Europe. Il souligne qu'il a déjà mis beaucoup d'argent pour la défense militaire. Il souligne aussi que dans la guerre commerciale avec les États-Unis, il a dit à Donald Trump qu'il n'y aurait pas d'accord séparé entre les États-Unis et chaque pays de l'Union européenne, que tous allaient y aller ensemble pour faire un front commun, un front uni face aux États-Unis.
Merci Pierre Benazé en direct de Bruxelles dans votre journal en français facile sur RFI.
Le journal en français facile.
Au lendemain de son élection, Léon XIV a célébré sa première messe en tant que pape. Elle s'est tenue à la chapelle Sixtine au Vatican devant les cardinaux. Il a déploré le recul de la foi au profit, je cite, de la technologie, l'argent, le pouvoir ou le plaisir. La messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV aura lieu le 18 mai, annonce le Vatican. L'élection du pape américain a suscité beaucoup de joie et d'émotion chez les catholiques nord-américains, mais chez les ultra-conservateurs, ceux qui sont très attachés aux valeurs traditionnelles, c'est la déception. Achim Lippold, on aurait préféré un pape moins progressiste.
C'est un pape marxiste. Voilà comment l'influenceuse pro-Trump Laura Loom a réagi à l'élection de Léon XIV. D'autres figures du mouvement trumpiste MAGA ont aussi critiqué le nouveau pape qui juge bien trop progressiste. En réalité, au sein du catholicisme américain, les ultra-conservateurs ont clairement le vent en poupe. C'est ce que révèle une enquête récente. De plus en plus de jeunes prêtres adoptent une vision très orthodoxe, voire carrément médiévale de l'Église, écrit le magazine Slate. Une tendance qui n'est pas marginale. Elle est partagée par une grande partie de la hiérarchie ecclésiastique dominée aujourd'hui par des cardinaux très conservateurs, que ce soit sur le plan politique, moral ou théologique. À ce titre-là, le nouveau pape ne reflète pas vraiment l'Église américaine et quelles que soient ses prises de position, il ne pourra pas inverser la tendance dans son pays. La plupart des fidèles, dont plus d'un tiers sont d'origine latino, rejettent les valeurs libérales et ne veulent pas d'une Église inclusive. L'an dernier, 58% des électeurs catholiques ont voté pour Donald Trump. C'est 8 points de plus qu'en 2020.
Achim Lippold, Donald Trump lâche du lest. Il fait des concessions dans la guerre commerciale contre la Chine. Le président américain se dit favorable à un abaissement des droits de douane à 80% contre 145% actuellement. Annonce faite à la veille de négociations en Suisse entre le secrétaire au Trésor et le représentant au commerce américain et le vice-premier ministre chinois. À l'écoute de RFI, il est 19h08 dans la bande de Gaza où l'UNRWA assure être irremplaçable pour distribuer l'aide humanitaire. C'est cette agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens qui le dit elle-même alors que le blocus se poursuit depuis maintenant plus de 2 mois. Nourriture, eau, carburant, médicaments, plus rien ne rentre et les stocks s'épuisent à Gaza, laissant plus de 2 millions de personnes face au risque de mourir de faim. La porte-parole de l'UNRWA, Tamara Al-Rifai.
Ça fait maintenant plus de 9 semaines qu'il y a un blocus total, complet, sur la bande de Gaza. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de médicaments, pas de tente, pas de couverture. Rien n'entre à Gaza depuis la reprise des hostilités, donc depuis l'effondrement du cessez-le-feu. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique aujourd'hui. Elle est bien pire que ce qu'elle ne l'était il y a un an. Et il faut rappeler que ce siège qui dure maintenant depuis plus de 9 semaines est le plus long depuis le début de la guerre à Gaza il y a 19 mois.
La porte-parole de l'UNRWA, Tamara Al-Rifai, appelée par Alice Froussard. Il est presque 18h10 à Paris. Ainsi se referme cette édition. Elle est à réécouter et à lire sur françaisfacile.rfi.fr.